Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour, rebonjour, si vous vous réveillez, bienvenue sur Terre. Nous sommes le 29 décembre 2020 et vous écoutez la deuxième heure de Culture Média. François Berléand vient nous voir en direct et en studio. Expérience, jouer une pièce drôle au théâtre devant très peu de spectateurs. Une heure de tranquillité, pièce de Florian Zeller qui passe ce soir en prime time sur France 2 en coopération avec Europe 1. Le comédien vient nous raconter ce que le virus lui fait faire. Damien Cabrespine va lui tirer le portrait. À Berléand, pas au virus. Et puis l'indispensable, une semaine littéraire en compagnie de Nicolas Caro. Un peu de poésie ce matin, oui, avec les ouvrages de Mathias Malzieu et Cali. La série des séries signée Eva Rock, c'est tout de suite. Celle-là, surtout ne la loupez pas. Culture Média, jusqu'à 11h, vous êtes là ? Je le redis, encore une fois, celle-là, ne la manquez pas. Séries en série, épisode 4 pour Eva Rock qui revisionne le meilleur de l'année 2020. Ce matin, direction Brooklyn. Et bonjour Eva.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Indice pour cette série du jour que j'ai adorée.
Un foulard, ce foulard qu'estime nous sur son crâne rasé depuis que ses longs cheveux châtains sont tombés sous les coups de la tondeuse maniée par une femme de sa communauté hassidique. La série Unorthodox nous embarque en 2020 dans cette communauté juive ultra-orthodoxe de Williamsburg, à Brooklyn, le quartier new-yorkais. Ici, la télé est toujours inexistante, la musique interdite, les mariages arrangés, la vie de femme rythmée par les tâches ménagères et l'éducation des enfants, et les problèmes de couple discutés en famille, même les plus intimes. Et à 19 ans, Estie n'y échappe pas, mais ce carcan l'étouffe, l'alien, elle qui apprend à jouer du piano en secret, décide de fuir à Berlin où vit sa mère, un voyage pour retrouver la liberté, pour jouer de la musique, pour vivre et s'émanciper.
Dis-moi, est-ce que tu t'es enfuie ?
Tu dis ça comme si j'étais en prison.
C'était pas le cas ?
Non, mais oui, je suis partie, sans dire à personne où j'allais.
Mais pourquoi t'es partie ?
Dieu avait placé trop d'espoir en moi. Là d'où je viens, il y a beaucoup de règles. Tout ce qui importe pour ma famille, c'est que je sois une mère et une femme dévouée. Je voulais m'éloigner autant que possible de ma communauté. Alors, tu veux bien m'aider ?
L'apprentissage de la liberté, de l'indépendance, des relations aussi sociales débute pour Estie.
Et la musique joue un rôle important.
Oui, c'est le lien entre ce monde que Estie découvre et celui auquel elle est immanquablement rattachée et qu'elle tente d'oublier. La voilà d'ailleurs avec ses nouveaux amis du conservatoire où elle espère être intégrée.
Dis-moi Estie, je me demandais, pourquoi Berlin ? New York abrite certains des meilleurs conservatoires du monde.
Je voulais m'éloigner autant que possible de ma communauté.
Pourquoi ?
J'étais trop différente.
Je compatis, Estie. J'ai fait la même. Ils sont pas fans des gays au Nigeria.
Surtout ceux qui jouent du violoncelle.
Putain, je te le fais pas dire.
C'est vrai, oui, mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Vous êtes là maintenant. J'espère de tout cœur intégrer le programme.
Et si on t'écoutait ?
Quoi ?
Allez, nous, on joue entre nous tout le temps, je te jure.
Pourquoi pas, ouais.
Tout le temps,
on passe nos soirées à ça.
Ouais, d'ailleurs, c'est presque un peu trop.
On fait ça que les samedis.
D'accord.
Ouais. Ouais.
Je ne sais pas pour vous, Pascal, mais pour moi, Unorthodox fut une sidération.
Exactement.
Sidération pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas la communauté juive hassidique et découvrent un monde à part, extrêmement refermé sur lui-même et dans lequel il est difficile de se faire une place, notamment quand on est une femme. Sidération par cette impression d'étouffement qui se dégage des quatre épisodes, oppression volontaire destinée à mieux nous faire comprendre le désir de liberté d'Estie. Et au-delà de la sidération, de l'émotion face à la performance de la jeune actrice Shira Haas dans le rôle principal, une comédienne israélienne de 25 ans, au CV peu fourni. À ses côtés, le rabbin est joué par Eli Rosen. Il a appartenu à cette communauté avant d'en partir. Aujourd'hui, il est acteur et conseiller culture. pour des séries et notamment pour Unorthodoxe.
Où peut-on voir cette mini-série Unorthodoxe ?
Les 4 épisodes de cette fiction allemande sont disponibles sur Netflix. Et cette année 2020 aura d'ailleurs été marquée par plusieurs séries ayant pour thème la religion. Canal Plus a ainsi diffusé la suite de The Young Pope, une deuxième saison baptisée The New Pope, avec John Malkovich dans le rôle du pape, après Jude Law, qui va d'ailleurs revenir à la vie après un long combat, je ne spoil pas grand-chose. Une excellente série créée par Paolo Sorrentino dont la réalisation relève du grand art. Et dans un autre genre, moins réussi mais pas inintéressante, Messia sur Netflix a été très remarquée ces derniers mois, l'histoire d'un homme faiseur de miracles et se prétendant comme le retour eschatologique de Jésus, débarquant au Moyen-Orient et entraînant avec lui une foule d'admirateurs.
Messia qui, je crois, n'aura pas de saison 2.
Exactement.
Si vous pensez qu'Eva Rock est un peu le Messie, allez donc écouter Serieland sur Europe1.fr et sur les plateformes. Bah, c'est pas mal, Messie, non ? À
oui,
jouer,
hein ? C'est pas mal.
Merci Eva, à demain.
À demain.
Et demain, quelle sera la série dont nous parlerons ? Bah, vous verrez bien, hein, c'est pas dans nos habitudes de spoiler.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Pascal Clark.
Incroyable, une pièce de théâtre ce soir, 21h05 sur France 2, en partenariat avec Europe 1. Je sais pas si vous vous souvenez bien du principe, des comédiens montent sur une scène, le rideau s'ouvre et ils jouent devant des gens dans la salle. Et si tout va bien, à la fin, le public applaudit. Bonjour François Berléand. Merci d'être dans Culture Média ce matin. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça hier après-midi, hier soir au Théâtre Antoine à Paris, où était captée, enregistrée la pièce de Florent Zeller, Une heure de tranquillité, que vous jouez avec notamment Isabelle Gélinas, Rod Paradot, Nicolas Vaude, mise en scène Ladislas Chola. Ça vous a fait bizarre d'abord d'être à nouveau sur scène ?
Oui, alors c'est-à-dire que j'ai enchaîné au Théâtre Antoine, parce que je jouais par le bout du nez avec François-Xavier de Maison. Et le dernier jour de jeu...
Mais c'était quand, le dernier jour
Je ne sais plus, début novembre. Ouais. Stéphanie Bataille, la directrice du théâtre, m'a proposé une pièce pour cette captation, donc Une heure de tranquillité, que j'ai lu dans la foulée, et elle m'a dit, on commence les répétitions la semaine prochaine. Normalement, pour nous, comédiens, une pièce, on l'a 3 mois avant les répétitions, et puis on a un peu travaillé dessus, etc. Là, non, c'était en urgence absolue, et ça a fait bizarre, parce qu'il y avait beaucoup de lignes à apprendre, énormément, hein, parce que c'est...
Surtout
c'est...
pour votre rôle,
oui,
à vous.
Oui, pour mon rôle, enfin, il est là tout le temps. Et il parle tout le temps, surtout. Et du coup, je me suis rendu compte au bout d'une semaine que ça allait être un travail, mais colossal. Donc ça a été 10 heures par jour d'apprentissage du texte. Mmh. Alors, c'est notre métier, hein, mais ouais. Simplement, c'était un style différent, parce que le style de Florent Zeller est différent des autres auteurs, ce qui est normal, puisque c'est Florent Zeller. Mais ça a été très, très compliqué pour moi, au début, en tout cas, d'appréhender ce rôle. Et puis, au fur et à mesure, c'est venu. Et puis, voilà. Et puis, hier, on a eu deux représentations.
Bah oui, alors que ça donnait quoi ? Parce qu'il y avait quoi ? 60 personnes dans la salle ?
Oh, même pas, non. Même pas, oui. 35. Et c'était, des techniciens, il y avait quand même les 8 cadreurs, parce qu'il y a 8 caméras, et puis des gens qui ont participé au spectacle de près ou de loin, et donc qui étaient invités, et puis quelques membres de la famille très très proches, et puis c'est tout, quoi. Donc ouais. Il y avait très peu de monde.
Ça changeait votre jeu, parce que là, vous deviez vous adresser non pas au public qui était d'ailleurs très peu là, mais à la caméra, aux caméras,
oui.
Parce que c'est une captation.
C'est une captation, oui.
Ça change votre jeu, vous croyez ?
Pas trop, parce qu'en fin de compte, il faut. Je pense que les téléspectateurs ont envie de voir du théâtre, et sinon ils regardent un film.
Ouais.
Donc le théâtre, c'est du théâtre. Donc on est obligé un peu de porter, ne serait-ce que pour les gens qui sont là, même s'ils sont très proches. Donc, et puis moi, j'ai l'habitude du Théâtre Antoine, le fait de savoir comment on porte la voix dans ce théâtre-là pour être entendu en haut. Mais donc j'ai pas trop changé mon jeu. Quoique, quand même, évidemment, le fait d'avoir des caméras, savoir qu'il y a des gros plans, que le metteur en scène vient vous voir avant et vous dise « Bon, ben là, François, il faut peut-être que tu en fasses un peu moins parce que la caméra va te prendre en gros plan. »
Ouais, puis ça grossit, on sait ce que c'est.
Mais
ouais.
On a tellement de choses à enregistrer que ça vient, évidemment, à la fin, ce problème technique. Donc, ça a été parti.
Et alors, les rires, parce que c'est une pièce qui est censée faire rire.
Oui. Et ben voilà, c'est ça qui est problématique. Alors,
il y a des rires enregistrés ou pas ?
Non.
Même en post-prod,
Non, c'est épouvantable. Non, ce qu'il y a, c'est que je crois qu'ils ont mis des micros dans le public pour augmenter pour le téléspectateur le rire, quoi.
Ah, vous aviez des rieurs professionnels?
Non, du tout. Non, parce qu'il y avait des moments. On a eu deux représentations, une à 2h, une à 6h, une à 18h, pardon. En fin de compte, les rires n'ont pas été au même endroit. C'est ça qui est terrifiant. C'est que, normalement, un spectacle, on le connaît au bout de la 10e représentation. Là, on ne connaissait rien. On avait fait une couturière devant 5 personnes la veille. Une couturière, normalement, il y a 100 personnes.
Oh, la misère.
Minimum. Même des fois, c'est plein. Et là, c'était 5 personnes qui ont ri. Alors, tout à coup, on était surpris. Parce qu'évidemment, le metteur en scène, depuis 2 mois, il ne peut pas rire sur nos effets. Donc, parce qu'il connaît la pièce par cœur. Donc là, c'était assez particulier d'avoir ces premiers rires. Et puis ensuite, des rires qui sont différents à chaque fois parce que les gens ne rient pas aux mêmes endroits. Et quand il n'y a que 30 personnes, ça n'entraîne pas évidemment les 600 autres qui auraient dû être
là. Très particulier. Une heure de tranquillité, vous nous résumez l'intrigue, ça raconte quoi?
Alors c'est très simple, c'est quelqu'un qui a déniché un album de jazz qu'il recherchait depuis une trentaine d'années. Il tombe dessus, au puce. Et il va pour l'écouter, et à chaque fois qu'il veut l'écouter, il y a quelque chose qui fait qu'il en empêche. Sa femme qui est dépressive, qui veut lui annoncer une nouvelle qu'il va apprendre bien plus tard. Et après, sa maîtresse, son voisin, le type qui fait les peintures, qui fait une grosse bêtise. Enfin, voilà, il ne pourra jamais écouter son disque pendant une heure et demie. Et à la fin, il y a un coup de théâtre comme dans
pièces.
Donc évidemment, on ne va pas dévoiler.
Non, mais il paraît que pour vous, comédien, comme on l'a dit, qui êtes premier rôle et puis beaucoup de jeux, de répliques, là, vous avez de quoi vous éclater, non?
Ah, totalement. J'espère qu'on va reprendre la pièce à un moment donné parce que cette pièce-là est tellement drôle, tellement le peu de spectateurs qui avaient été emballés par la pièce qui est très 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 drôle. Vraiment. Il y a eu un film. Hein.
Oui.
La pièce a été créée par Fabrice Lucchini.
Exactement.
Et ensuite, il y a eu un film avec Christian Clavier qui avait repris le rôle.
On va marquer une petite pause dans Culture Média sur Europe 1, François Berléand, après quoi nous écouterons quand même à quoi ressemble cette pièce que vous verrez ce soir sur France 2. Et puis nous écouterons également le portrait de Damien Caprespine. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Le comédien François Berléand croit avoir une heure de tranquillité sous la plume de Florian Zeller, mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça. La pièce est diffusée ce soir à 21h05 sur France 2 avec Europe 1. Écoutez à quoi ça ressemble.
Incroyable, non?
Je peux te parler juste avant que tu le mettes?
Hein?
Il y a 2 minutes, faut que je te parle. Arrête.
Ah bah c'est toi. Ah bonjour, oui.
Je vous dérange?
Oui, en effet. Oui.
Je me permets de vous déranger?
En effet, vous dérangez, oui.
Parce qu'il y a un petit problème.
Michel! Non, laisse-moi tranquille!
Viens Pierre, viens! Viens Pierre!
Ce qu'ils vont pas faire, non mais...
Michel!
Bon, j'avoue que c'est visuel cette histoire.
Oui,
hein.
Oui.
Donc là, je ne sais pas si ça a rendu quelque chose.
Oui, je n'ai pas oublié.
Trouvez ça kamikaze du théâtre à la télé à 21h?
Non, ce n'est pas kamikaze parce que ça, il y a des audiences qui peuvent être extrêmement conséquentes. Moi, le premier direct qu'on a fait pour France 2, qui était un vrai, vrai direct, au théâtre ce soir, il y a très longtemps, c'était pas des enregistrements directs, c'était un montage qui était fait sur plusieurs journées. Là, on avait fait un premier direct, c'était Faisons un rêve de Sacha Guitry, on avait fait 6,5 millions de spectateurs, c'est énorme, c'était la première fois. Et puis après, il y avait une pièce avec Lynn Renault et Muriel Robin, dont je ne sais plus le titre, qui avait fait 8,5 millions. Donc c'est...
Ah oui, vous mettez la barre haut pour ce soir.
Ça peut être... Ouais. Il peut y avoir énormément de téléspectateurs, comme il peut aussi ne pas y en avoir. tout le monde ne regarde pas la télé, mais... on peut faire des... Alors après, il faut savoir ce qu'il y a en face, je ne sais pas, mais c'est compliqué.
On va regarder, on va nous dire ça dans l'oreillette. Est-ce que vous faites partie de ces artistes en colère en ce moment, parce que laissé pour compte, parce que pas essentiel, François Berléand?
Oui, écoutez, là, évidemment, l'épidémie se propage à une vitesse considérable, donc Voilà, est-ce qu'il faut rajouter de l'épidémie à de l'épidémie en ayant des, voilà, en faisant déplacer les gens.
Donc vous l'acceptez.
Oui, je l'accepte. C'est difficile, évidemment, à accepter, mais je l'accepte. Alors c'est pas, moi évidemment, j'ai moins été confronté que mes consoeurs et confrères parce que je faisais justement cette captation. Donc j'étais
bah oui, vous jouez
pendant deux mois.
Ouais.
Mais moi, ce qui m'embête, c'est le mot essentiel, parce que. Voilà, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas. On fait tous un travail qui est essentiel pour son existence. Donc, que ce soit un comédien, un musicien, un boucher, un charcutier, un machin, c'est essentiel pour lui de travailler. Donc voilà, pour nous, c'est essentiel. Donc, dire qu'on n'est pas essentiel, bon, ça m'ennuie parce que si, on est essentiel, au moins pour nous. Donc, voilà.
François Berléand, comédien français, théâtre, cinéma, télévision, pour vous servir, signe particulier, s'est installé avec le temps et aussi c'est à noter. Bonjour Damien Cabrespine.
Bonjour.
François Berléand. Et son gros appétit de jouer.
Oui, un gros appétit, 227, le chiffre est impressionnant, presque surréaliste. 227, c'est le nombre de films, de courts-métrages, de téléfilms ou de séries télé auxquelles vous avez participé, François Berléand, parfois de loin, parfois au premier plan.
Quoi ?
Je connais pas de chanson.
Une chorale.
Proviseur despote dans L'Écoriste ou assureur brin de zinc dans Ma Petite Entreprise, vous avez incarné sur scène ou sur grand écran des gentils cyniques, des pleutres profondément humains, des placides déroutants, un inspecteur de police bougon ou un hypnotiseur inquiétant.
En fixant l'objet et en écoutant ma voix, vous vous sentez de plus en plus détendu. Vos pieds sont détendus, vos jambes, vos bras, vos mains sont détendus. Écoutez bien ma voix.
Votre bagou et votre bonhomie ont séduit le public, votre peur du vide et votre appétit de rôle vous ont empêché de refuser des projets.
Ça fait 10 ans que je suis chez toi, 50 000 balles par an. Pourquoi je serais pas assuré ?
Parce que je déclarais pas les contrats et l'argent le gardait pour nous.
Amuseur public ou grande gueule assumée, votre présence sur un plateau de tournage est une garantie de bonne humeur généralisée. Au cinéma, vous avez été dirigé par Claude Chabrol, Louis Malle, Michel Blanc, Danny Boone ou encore votre ami Guillaume Canet qui vous a transformé en idole acariâtre et sans scrupules.
Du fun, du fun, du fun. Je t'en demande pas plus ni pas moins. Si tu m'emmerdes, tu dégages.
Vous avez débuté sous les projecteurs latéraux du théâtre subventionné avant de vous épanouir plein feu dans des productions du privé. Vous aimez les personnages ambigus, votre rôle rêvé, celui du notaire incarné par Michel Serrault, votre acteur favori d'ailleurs dans Garde à vue.
Il y a deux catégories de flics, les spontanés et les tordus. Vous, vous faites partie des tordus, parce que je vais vous dire une bonne chose, moi. Votre coup de la corde de brume tout à l'heure, hein, ça c'est particulièrement tordu.
Alors oui, 227, ce chiffre est incroyable, mais ce staccanovisme est tout à votre honneur, François Berléand. En 4 décennies, vous êtes devenu un des piliers du cinéma français et les salles de cinéma n'attendent que leur prochaine réouverture pour à nouveau vous faire briller.
Oh, c'est gentil, hein.
Ça va, c'est gentil. Damien Cabrespine.
Oui, c'est gentil.
Ouais, vous avez reconnu tous les extraits parce qu'ils n'ont pas été.
Oui,
les films
oui,
n'ont
oui,
pas été
cités. Oui, j'ai reconnu.
Non, parce que c'est oui. Un kaléidoscope dans votre tête, non ? Souvenir de rôle.
Oui, oui, mais enfin, là, en l'occurrence, ce sont des rôles qui m'ont marqué.
Les choristes, le 7e ciel, ma petite entreprise, mon idole.
Voilà. Le 7e ciel, c'est où j'étais hypnotiseur.
Oui, c'est ça.
Voilà, j'hypnotisais Sandrine Kiberlin. Ouais.
C'est quoi l'idée ? Ça vous chagrine de dire non ? Ou alors, vous avez des miles ?
Alors, je ne sais pas dire non. Voilà, je ne sais pas dire non. Mon père disait toujours non, donc moi je dis oui. Voilà. Mais c'est comme ça. Mais c'est quand je demandais à mon père de l'argent de poche, est-ce que je peux donner mon argent de poche ? Il me disait toujours non. Et puis il me donnait mon argent de poche, mais il commençait toutes ses phrases par non. Et moi, du coup, j'ai commencé toutes mes phrases par oui.
À quoi ça tient ?
J'ai un peu bébête, hein, mais c'est comme ça.
Autre hypothèse, quand vous ne jouez pas, vous vous sentez mal, vrai ?
Oui, alors au théâtre, à vrai dire, plus ça va, plus je sais que mon métier est au théâtre. Évidemment, bon, je fais du cinéma, puis ça m'amuse. Mais il n'y a pas cette tension, l'adrénaline qui est constante au théâtre, qui me fait vivre. Quoi.
Ouais.
J'ai l'impression que je ne peux pas mourir au théâtre. Alors que sur un film, oui, j'ai l'impression que je peux mourir.
Ce qui est vrai.
Oui.
Sauf si vous mourrez sur scène, pardon.
Oui, mais du coup, au moins, je serai sur scène.
Ah oui, c'est ça. Donc
j'aimerais bien, c'est Paul Meurice est mort sur scène.
Pardon ?
Paul Meurice.
Ah oui ?
Eh oui, oui, il est mort sur scène. Paul Meurice, oui, Molière.
Molière, il paraît que non, hein, mais bon.
Ah, il paraît que non, bon, voilà.
Ouais,
peut-être que, pour l'instant, je ne suis pas encore mort, mais peut-être que ça viendra, certainement, enfin, je pense.
Donc, en tout cas, c'est un besoin physique, on est
oui,
d'accord ?
Oui, c'est un besoin physique, oui.
Ouais. Et sinon ?
Bah sinon je lis, hein. Sinon je fais des tas de choses, mais j'ai besoin de faire mon métier, d'exercer mon métier. C'est pas une peur de la mort, c'est pas une peur de ne rien faire. C'est parce que j'aime être sur scène et puis voilà, la communication avec le public. Ouais, je parle pas de communion, parce que bon, y a à dire, mais la communication. Et je trouve que c'est ça qui est formidable. Et c'est ça qui était bizarre hier. C'était le fait d'avoir que 30 personnes. Parce que, comme on joue avec le public, c'est le public qui décide de la représentation. Là, c'est la première fois que c'était un peu à égalité, quoi. C'est-à-dire que, enfin, même on n'attendait pas les rires, parce qu'on n'avait pas beaucoup, de toute façon, et ça ne nous empêchait pas de parler sur les rires. Alors que quand vous avez une salle de, je sais pas, même 300 places, hein, de 300 personnes qui sont là, et qui rient, vous êtes obligé d'attendre la fin.
On verra ça ce soir sur France 2, une heure de tranquillité. A tout de suite, François Berléand. On va parler littérature précisément dans un instant, et plus précisément encore, poésie. Et oui, Nicolas Caro sera dans la place. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Un de ces jours, février, peut-être, quand les cinémas auront rouvert, peut-être, on vous verra, François Berléand, dans une grosse production, Les Tuches 4 d'Olivier Barrault, où vous êtes à l'œil méconnaissable. On a juste pris ce petit extrait.
Ah, c'est Les Échos. Tu connais ?
Tu connais !
De quoi ?
De quoi ?
Ah ok, j'y suis. Les Échos, très drôle. Hein.
Très drôle.
Voilà, c'est tout.
Je ne me souviens pas.
Hein, bah vous lisez Les Échos et,
oui.
Et voilà,
ah,
j'entends
voilà, oui, mais c'est un effet. Ah oui, mais alors, je ne l'ai pas vu, moi, encore, le
film. Bah oui, non, oui, je sais. Sûr, oui. Vous êtes amusé quand même sur le tournage.
Oui, bah, on a fait, c'était avant le confinement, puis on a terminé après le confinement. Donc,
ah oui, oh là là. C'est des cabrioles, votre métier, en ce moment.
Oui, c'est, ah bah c'est, ce n'est que ça. Donc, on avance, on recule, on avance, on recule.
Alors, on va faire une transition un peu pointue, hein, passer des Tuches 4 à la poésie. Bonjour, Nicolas Caro.
Tout est poésie. Vous avez dit cabriole, par exemple. Rien que ce mot-là, c'est une
ça
poésie,
vous plaît,
non
ce mot-là. Cabriole. Ouais, c'est vrai. Je ne sais pas d'où il est sorti.
Ce matin, il y a poésie, Pascal.
Il y a des mots qui sortent. Alors, Nicolas, ce matin, vous êtes venu avec deux recueils de poèmes. Qui sont les poètes ?
Eh bien, ils se ressemblent un peu. Ce sont deux chanteurs, deux musiciens qui publient tous les deux un recueil. Mathias Malzieux, le chanteur de Dionysos, avec sa compagne Daria Nelson. Le livre s'appelle « Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse » aux éditions de l'Iconoclaste. Et Cali, le chanteur, qui publie « Éparpillé » au pluriel, c'est chez Invenit.
Ce sont des vers.
Pas du tout. Enfin, parfois ça rime, mais c'est plutôt des accidents quand ça rime. Il n'y a pas d'alexandrin, c'est de la poésie moderne, un peu à l'américaine. Les deux sont fans notamment du poète américain Richard Brautigan, de la Beat Generation. Ce sont des instantanés, si vous voulez, des observations poétiques du monde ou des poèmes d'amour, par exemple. Chez Mathias Malzieux, je vous donne le poème. « Tu transformes mon cœur en derviche tourneur ». Voilà. C'est fin du poème, très court. Le recueil est très fin, petit format, ça se met dans la poche comme un paquet de bonbons. Et on en prend un comme ça de temps en temps. Et en fait, tout le recueil raconte l'histoire d'amour assez neuve de Mathias Malzieux et Daria Nelson. Il y a aussi des textos, d'ailleurs, qui sont évidemment aussi des poésies.
Et chez Cali ?
Chez Cali, le format est plus académique. Il écrit sur ses parents, ses enfants, ses amours. C'est plus mélancolique aussi, parfois c'est drôle. Il y a par exemple celui-ci, le premier d'ailleurs, je vous le lis, qui s'appelle « Merci ». À la fin de la chanson, j'ai remercié une à une toutes les personnes présentes, comme pour leur dédicacer le livre que je n'avais pas écrit. À leur tour, ils m'ont remercié par quelques applaudissements polis, indiquant que la librairie où ils n'avaient pas déniché le livre n'était pas bien loin de chez eux. Voilà, moi j'aime bien, c'est une bonne introduction parce que justement, Cali, c'est un chanteur. Il y a « J'ai pissé dans la neige » aussi, c'est un titre de poème. Ça va dans tous les sens, c'est éparpillé. Donc, j'ai demandé à Cali ce qu'était la poésie pour lui.
Le matin, avant de sortir, il y en a qui ont leurs petites habitudes. Moi, je prends un poème au hasard. Les mots, aujourd'hui, c'est les seules choses qu'on peut cajoler. C'est les seules choses non interdites, on va dire, aujourd'hui. De lire quelque chose qui me ramène à la pureté, à l'enfance, le moment où on ne sait pas la mort et on ne sait pas la trahison. Moi, je vois la poésie dans beaucoup, beaucoup de choses. C'est une éclaircie, quoi. Pour moi, c'est ma définition. C'est-à-dire qu'on vit avec la poésie tout autour. Et parfois, il y a des chiens fous qui l'attrapent et qui en font quelque chose, quoi. Qui attrapent des mots et qui en font quelque chose qui... c'est du temps gagné sur la vie, ouais, sur l'absurdité de cette vie, encore une fois. C'est défier la mort.
Oula.
Carrément. Ah,
du temps gagné sur la vie, Nicolas.
Et, ouais, et les meilleurs pour ça, évidemment, ce sont les enfants, qui, on le sait bien, sont des poésies ambulantes.
Je me suis amusé dernièrement à regarder dans la petite école de ma fille des enfants qui avaient sous-titré, qui avaient des dessins. Et dans leurs mots, ça parlait de flaques d'eau, ça parlait de pluie, ça parlait de soleil, ça parlait de rire. Et je me suis dit, mais c'est des vrais poèmes comme ça. Il y avait un sapin de Noël au conservatoire où on pouvait mettre les vœux de chacun. Et les enfants accrochaient, je voudrais qu'il n'y ait plus de guerre, je voudrais que les gens ne soient plus malades, je voudrais... Et je suis allé espionner ma petite fille, quoi. Et elle avait marqué, Papa Noël, je voudrais que tu m'amènes plein de cadeaux. Et j'ai tourné le mot, il y avait marqué derrière. Sinon, je dis à tout le monde que tu n'existes pas.
Ah non, vous n'allez pas me dire ça, Nicolas Carré.
Vous faire dire quoi?
Bah, même si tout le monde sait qu'il existe.
Bah, c'est une vérité.
Ah non, moi je dis pas ça.
Bah, écoutez,
prenez-le pour vous.
Bah, c'est que vous l'avez jamais vu. Demandez à ma fille de 4 ans, Pascal,
ah bah,
qui
d'accord.
Écoute la radio.
C'est vrai? Comment elle s'appelle?
Bien sûr, Madeleine.
Bonjour Madeleine.
Bonjour Madeleine.
Éparpillé donc le titre du recueil de Cali et le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse, c'est Mathias Malzieu. Vous avez pris lequel, François Berléand?
C'est-à-dire?
Vous en avez un?
Cali, éparpillé.
Éparpillé de Cali, ouais. Et vous, la poésie, non?
J'aime beaucoup. Ah non, non, moi, je malheureusement. Enfin.
Bah, faut essayer.
Oui. J'ai trop de choses à faire. Là, ça y est, c'est que je vais être calme. Mais là, j'ai eu trop de.
On va parler du calme et vous dans un instant, parce que ça peut être intéressant.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Enfin tranquille, François Berléand. Bon, on n'a pas une heure devant nous, mais quand même. Est-ce que vous êtes un contemplatif ou alors vous n'avez pas le temps?
Si, j'ai le temps toujours d'être contemplatif. Moi, je prends toujours le temps pour aller voir des musées, des choses comme ça. On a au théâtre cette possibilité extraordinaire d'être en tournée, quelquefois. Et on fait ça dans toute la France, un peu en Europe, mais en Belgique, enfin dans les pays francophones. Et là, pour moi, c'est l'occasion de justement prendre le temps et d'aller voir des musées dans les différentes villes. Et donc, c'est un vrai bonheur. Non, je peux être contemplatif. Mais il faut que je fasse quand même quelque chose le soir. Sinon, je m'embête. Ouais.
Parce qu'on dit, moi j'en sais rien, on dit que l'art de l'observation, c'est essentiel quand on est comédien.
Tout à fait.
Donc vous regardez beaucoup les gens, vous vous en inspirez.
Oui. Alors, avant, il y avait un lieu de prédilection qui s'appelait le café, n'est-ce pas? Les terrasses de café, c'est ce qui manque le plus. Et là, on voyait, moi, j'ai commencé à travailler là-dessus, justement, sur regarder les gens passer. Dans les musées, je me souviens d'avoir passé des journées à regarder les gens regarder.
Ah oui, et c'est vraiment quelque chose qui vous inspire.
Parce qu'il y a toujours ceux qui savent, ou qui font semblant de savoir, il y a toujours ceux qui sont étonnés, il y a ceux qui sont contemplatifs et qui ne disent rien, qui sont... voilà. Et c'est, je vous assure, c'est une expérience extraordinaire de ne pas voir un tableau. Enfin, de le voir quand on veut, mais de regarder les gens regarder, c'est extraordinaire.
Ouais, toujours le contre-pied.
Voilà.
Et ça s'imprime en vous.
Oui,
Et ça ressort quand vous êtes comédien, quand vous jouez.
Oui, de manière assez instinctive. Mais moi, j'ai vraiment commencé dans mon métier, je ne sais pas, j'avais 20 ans. Je suis allé voir un charcutier, je lui ai demandé comment il travaillait, j'ai observé, j'ai essayé de faire les gestes, je suis un boucher, on m'a expliqué comment dépecer des bêtes. Enfin, j'ai horloger même, j'ai fait. Mais là, je n'ai pas la patience, donc c'est un peu compliqué. Mais tout ça s'imprime plus ou moins bien, évidemment. Mais j'aime bien faire j'ai fait ce travail-là avant. Donc... c'est un métier formidable pour ça, parce qu'on est ouvert à tout.
Et le sentiment d'entrer d'une certaine façon dans la vie des gens, c'est ça un comédien au long cours. Quand on y pense, ça vous touche?
Oui, mais je ne me rends pas compte.
Non, vous ne vous rendez pas compte.
Moi, je suis toujours très étonné quand il y a du monde qui vient au théâtre pour voir une pièce dans laquelle je suis. Je me dis toujours, c'est pas moi, c'est l'autre. Mais jamais j'aurais la prétention de penser que c'est les gens viendraient pour moi. Donc
Oui, mais est-ce que c'est pas une... Est-ce que vous ne refusez pas d'y penser parce que ce serait vertigineux, non?
Peut-être, oui. Peut-être qu'il y a ça. Je sais pas. Je suis très humble, donc enfin c'est prétentieux de dire ça, mais je peux pas penser que je suis j'ai une notoriété qui fait que les gens viennent pour moi. J'aime mieux pas y penser parce que ce serait trop. J'ai joué tellement de salopards que dans la vie, les gens. Je me souviens, j'avais fait un film, une participation dans un film, c'était vraiment au tout début. J'avais toujours acheté mon pain chez le même boulanger. Il se trouve que je jouais un méchant, mais épouvantable à la télé. Enfin, c'était je ne sais pas quelle série. Enfin bon. Et je jouais vraiment, mais vraiment une ordure. Et le lendemain de la diffusion, je vais acheter mon pain. Et vraiment, la boulangère m'a regardé d'un air terrifié, m'a donné le pain comme si j'étais un criminel. Enfin, donc c'est particulier quand on rentre dans comme ça l'univers des gens. Donc je préfère.
C'est vrai que
je suis très content qu'il y ait le masque en ce moment, parce que au moins les gens ne savent pas qui je suis. Comme ça.
C'est vrai que vous en avez joué des beaux salopards.
Ah oui,
quand même.
Mais ouais. C'est un vrai bonheur. Hein.
Bah, il paraît.
Parce que moi, je suis plutôt gentil et pas expansif. Donc, c'est très, très étrange de me retrouver, enfin, à jouer des méchants. Alors, des lâches, oui, ça, je suis lâche, donc j'ai pas de problème. Mais,
vous êtes lâche dans la vie?
Oui, assez. Je suis très, très fort quand je conduis une voiture, toute vitre fermée. Mais si les vitres sont ouvertes, je suis très lâche.
Comme ça, sans réfléchir à un métier ou une activité qu'il vous plairait de jouer, d'interpréter?
J'aimerais, j'en ai fait pas mal. Médecin, j'aime bien. Surtout maintenant, maman.
Ah oui.
Oui, oui. Maman, c'est voilà, je pense à eux, ils ont tellement de travail. Voilà. Mais en plus, hospitalier, j'aime bien les rôles de professeur. Voilà, ça me plaît beaucoup, ça. C'est ce que j'aurais aimé être.
Ah, c'est vrai, ouais.
Bah. Enfin, pas professeur, mais médecin.
Oui, mais c'est pas mal non plus, ouais. Le comédien. Bah, peut-être oui. Que vous soyez les armes, on ne sait pas. Ouais.
Non, mais j'aurais préféré ça.
Nouvelle pause sur Europe 1. François Berléand, il va nous rester quelques minutes ensemble. Et là, tout sera possible, je vous préviens.
Ah, très bien.
Là, 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 tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Et avant le 31, il y a ce soir sur France 2 avec la diffusion d'une pièce de Florian Zeller dans laquelle vous jouez François Berléand, Une heure de tranquillité, et qui a été tournée hier au théâtre Antoine. Ça se regarde franchement, avec notamment Isabelle Gélinas.
Oui.
Et d'autres.
Et Nicolas Vaud, et Rod Parado, et Jean-Luc Perrin, tout à coup de me tirer
l'oreille. Oui, on va les retrouver, vous inquiétez pas. Oui. Vous faites quoi le 31, vous?
Alors le 31, ça va être très calme. Hein. Je pense que je vais être avec mes deux jumelles et ma compagne. Voilà, et nous allons fêter ça à 4.
Vos jumelles, ce sont des adolescentes?
Elles ont 12 ans.
Ah oh, oui, non.
Elles ont eu 12 ans, le 27, oui. Ouais. C'est...
Un petit peu...
C'est son petit, oui, ouais. Pour ça, parce que j'étais.
Non. Est-ce que vous êtes toujours un supporter d'Emmanuel Macron?
Oui, oui. Alors après, je ne l'envie pas, hein, parce que c'est pas simple, parce qu'il a à gérer. Là, je veux dire qu'il a eu toutes les planètes qui sont alignées pour qu'il soit président, et puis il y a toutes les planètes qui sont parties à la seconde où il a été élu avec que des emmerdements. On peut pas dire un autre mot. Et avec c'est impossible à gérer. Je trouve que, enfin, je sais pas comment faire. Je sais pas qui pourrait faire mieux. Évidemment, à chaque fois, l'opposition dit oui, on ferait mieux, mais je sais pas quoi. Franchement, ce qu'il a fait par rapport, en tout cas, aux intermittents, de prolonger le chômage,
l'année blanche, voilà, comme
c'est
on dit, ouais.
Une année blanche, c'est formidable. Mais je pense qu'il fera une année de plus parce que là, il y a pas de travail. Il y a pour le cinéma. Y a
vous
que le cinéma.
Pensez ou vous le savez?
Comment?
Vous le pensez?
Je
ou
le pense. Ah non, je le pense. Ah non, je sais. Moi, je sais rien. Je,
ah, parce
je,
que
je...
vous le voyez pas,
non, non,
le
du
président,
tout,
non,
non, non, non, non.
Je pensais que vous étiez proche, etc.
Ah non, bah on est pro. Enfin, il n'y a pas que ça à faire non plus.
Non, non, j'imagine.
Pas... Non, non. Puis moi, des fois, je lui envoie des textos, mais il ne répond pas. Mais
il vous répond plus.
Mais non, mais il n'a pas le temps, le pauvre. Imaginez.
Comment vous l'avez connu?
Ben, je l'ai connu parce qu'il est venu au théâtre. On a parlé après. C'est quelqu'un qui a une... Voilà, une aura, une facilité au contact. Et puis j'étais vraiment emballé par le... C'est quelqu'un qui a une puissance de travail phénoménale et qui est d'une intelligence extrême. Et il est d'une rapidité, c'est invraisemblable. Quoi. Et j'avais fait un dîner avec des gens comme ça, parce qu'il avait besoin, avant les élections, d'avoir des gens de la culture. Donc j'avais un cinéaste, un éditeur,
c'était chez vous?
Un théâtre chez moi, oui.
Ouais.
Et tout le monde a dit voilà ce qu'il avait à dire dans sa partie. Et il a fait une... En, je sais pas, un quart d'heure, une fois que tout le monde avait parlé, il a été d'une concision absolument inouïe. Il a tout compris. En... Et ça a été mais, exceptionnel. Quoi. C'est un homme vraiment exceptionnel. Après, bon, moi, je donnerais des cours comme ça pour être un peu plus proche des gens, mais... Après, c'est pas sa
allez-y,
fonction.
Développez ça.
C'est pas sa fonction non plus. Non, mais
vous
je trouve un peu bloqué
peu...
À devant des caméras. Mais c'est, j'ai jamais vu un président de la République avoir être très fort devant des caméras.
Ouais. Prenons juste la nature des interventions et on l'a beaucoup vu à la télé, évidemment.
Trop long, il est trop long.
trop long. Et vous ne trouvez pas qu'il est trop emphatique? Ça se dit.
Oui, non, mais c'était oui, mais c'est...
oui, l'emphase.
C'est ça le problème qu'il a, c'est qu'il est, il est très jeune, donc il essaye d'avoir, il essaye de montrer un peu plus de maturité, d'empathie. Mais il a pas cette, il manque d'empathie à la télé parce qu'il l'a totalement dans la vie. Mais après, bon voilà, les caméras, ça s'apprend, ça s'apprivoise. Et là, il a pas encore ça. Alors peut-être qu'il l'aura à un moment donné, j'en sais rien, mais c'est pas. C'est un autre métier. C'est pour ça que c'est compliqué. Moi, je serais lui, je passerais le moins possible à la télévision. Édouard Philippe était parfait pour ça. Il avait, mais parce que il est trop long. Il est à chaque fois trop long, Emmanuel Macron. Et quand il est pas long, c'est formidable.
Pour terminer, François Baillère-Léon, on va commenter quelques images récentes. Alors celle-là, elle est très récente. Morissette, vous l'avez vu, Morissette, la première française vaccinée.
Ah non, je me... non.
Vous n'avez pas vu l'image.
Non, j'ai...
Ah oui, c'est vrai. Là, vous aviez deux trois bricoles.
Pas du tout sur la...
vous n'hésiterez pas quand.
Ah, moi, je me suis même porté volontaire il y a 3 mois pour être vacciné.
Portée volontaire auprès de qui
Auprès de la PHP.
Et alors?
Eh ben, j'attends toujours. Mais j'ai pas. C'était pour essayer des vaccins. Je ne sais pas si c'est Sanofi ou pas. J'en sais rien. Donc mais c'était auprès de la PHP. Donc j'attends.
Vous l'avez eu le Covid en plus?
Oui, moi je l'ai attrapé en mars, mais de façon totalement asymptomatique. Donc j'ai pas.
Ah, sans symptômes?
Ah mais vraiment, je l'ai su. Tout le monde l'avait eu dans là où j'étais. Donc. Après, j'ai fait un test sérologique parce que pour un film. Et c'est là où j'ai appris que j'avais des anticorps, donc je l'avais attrapé.
Comme ça, c'est fait.
Donc ça, c'est fait.
Merci beaucoup d'être venu ce matin, François
Baillère-Léon. Je voudrais simplement dire quelque chose, parce que sur France 2, après nous...
Oui,
il y a...
j'allais le dire, effectivement. Voilà, non, mais dites-le, c'est mieux.
Claude Brasseur,
voilà. Évidemment, France 2 diffuse...
Mon père avait raison.
Exactement.
De Sacha Guitry.
Avec Claude Brasseur et son fils.
Et son fils Alexandre.
Et les obsèques ont lieu là maintenant.
Oui, maintenant.
Vous y allez?
Oui, c'est maintenant.
Ouais, d'accord. Ouais. Merci beaucoup d'être venu en tout cas.
Avec
et puis
plaisir,
on vous regarde à la télé ce soir, 20h35, sur France 2. On termine avec Première Page ce matin. Un tout petit roman d'une quarantaine de pages disponible le 7 janvier. La disparition du paysage, signé Jean-Philippe Toussaint aux éditions de Minuit. Et comme il est petit, j'ai triché, il y a 2 pages. Je passe ma convalescence à Ostende. Une aide-soignante, qui ne parle pas français, peut-être ne parle-t-elle que néerlandais, vient tous les jours, qui me couche le soir et m'assiste pour mon lever. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas de discontinuité dans ma vie, que cela fait des mois maintenant que je suis immobile, ici, dans un fauteuil roulant, et que les journées se succèdent, identiques, devant la fenêtre de cet appartement. Combien de temps va durer ma convalescence? Je l'ignore. Je n'ai pas froid, je ne manque de rien. Je n'ai aucun souvenir de l'accident. Ai-je été renversé par une voiture ou était-ce une chute? Ai-je fait une chute dans les escaliers ou un attentat? Se peut-il que j'ai été victime d'un attentat? Je ne sais pas. Je n'ai pas mal, pas de souffrance physique, mais un étonnement inébranlable. Je ne me souviens plus très bien de moi, de qui je suis, de qui j'étais plutôt. Pourtant, ma conscience du présent n'est pas altérée, elle est même particulièrement aiguë, comme si la mise à l'arrêt forcée de l'ensemble de mes autres facultés me faisait soudain percevoir avec une attention décuplée, affûtée, acérée, l'instant visible. Ça donne envie. Jean-Philippe Toussaint aux éditions de Minuit, c'est à paraître quand? Eh bien le 7 janvier. Culture Média, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain 9h pour l'avant-dernier jour de l'année. Nous serons en compagnie du journaliste Samuel Etienne, du chanteur Louis Chédid. Et nous demanderons comment font actuellement les journaux cinéma sans cinéma. À suivre sur Europe 1, Anne Roumanoff, le best-of. Passez une bonne journée, bye bye.
Europe 1, Culture Média, Pascal Clark.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs? Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor?
ou vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires?
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.